Chers élèves, voici en deux disques le complément indispensable de tout votre cours de comptabilité. Chaque leçon de votre méthode est reprise de façon plus ou moins concise, afin de vous aider dans votre travail. Tous les points importants sont traités, expliqués, développés. Vous avez maintenant en main tout ce qui est utile pour étudier et devenir un parfait comptable. Première leçon, la théorie du compte. Qu'est-ce qu'un compte? C'est un tableau dans lequel sont enregistrées toutes les opérations financières concernant une même personne ou une même chose. Le tableau est divisé en deux. La partie gauche s'appelle le débit et la partie droite le crédit. Nous débitons un compte lorsque nous inscrivons une opération au débit et nous créditons en inscrivant une opération au crédit. Pour qu'une opération figure au débit, il faut pouvoir répondre à la question « qui reçoit ?». Au contraire, pour inscrire une opération au crédit, il faut répondre à la question « qui donne ?». Le solde est la différence entre le débit et le crédit. Si le débit est plus fort que le crédit, on dit que le solde est débiteur. Si le crédit est plus fort que le débit, on dit que le solde est créditeur. Dans le cas où nous avons le débit égal au crédit, nous disons que le solde est nul ou encore que le compte est soldé. Deuxième leçon, notion sur la partie double. L'enregistrement comptable d'une opération intéresse deux comptes, le compte qui donne et celui qui reçoit. Toute opération intéresse donc deux comptes. Retenez bien ceci. En effet, si M. Dupont achète 15 000 francs de marchandises, il les reçoit, mais c'est l'entreprise qui les donne. En comptabilité, le compte de M. Dupont augmente, il est débité, le compte entreprise qui donne est crédité. Troisième leçon, le bilan. C'est l'inventaire des biens et des dettes de l'entreprise. Les biens constituent l'actif et les dettes le passif. Le capital représente l'apport du commerçant. Nous le calculons en faisant la différence entre l'actif et le passif. Les biens et les dettes sont inscrits dans un tableau, les biens à gauche et les dettes à droite. Ce tableau, c'est le bilan. La partie gauche est l'actif, la partie droite, le passif. De façon à équilibrer les deux côtés, le capital est inscrit au passif. Nous pouvons aussi dire que le capital est la dette de l'entreprise vis-à-vis du commerçant. Quatrième leçon, les variations du bilan. Chaque opération dans une entreprise modifie son bilan. Le bilan établi à l'ouverture sera modifié par les opérations. Un poste d'actif ou de passif peut augmenter ou diminuer, apparaître ou disparaître. Les postes du bilan peuvent changer sans que les totaux du bilan varient. Nous disons alors qu'il y a eu mouvement ou mutation dans l'actif. Cinquième leçon, notion de résultat par la comparaison des bilans. Un résultat peut être déficitaire ou bénéficiaire. Si nous comparons le bilan dressé au 1er janvier, dont le total est de 30 000, et le bilan au 31 décembre, dont le total est de 50 000, nous nous apercevons que le total a augmenté de 20 000. Si aucune variation de capital n'a été enregistrée, cela veut dire que les opérations de l'année ont abouti à un bénéfice. Le bénéfice est égal à l'actif moins le passif. Un autre cas peut se présenter. Le total du bilan au 31 décembre est de 25 000. Le total du bilan a diminué de 5 000. Si aucune variation de capital n'a été enregistrée, les opérations ont donc abouti à une perte. Résultat de l'exercice égal, actif moins passif. Sixième leçon. Classification des principaux comptes. Cette leçon est d'une importance capitale pour la suite de votre cours. Elle doit être apprise par cœur. Ne retenez que les comptes dont le numéro est à deux chiffres, mais sachez ce qu'ils contiennent. C'est le principe de l'étude du plan comptable légal actuel. Les comptes utilisés par les entreprises sont réunis dans un document appelé plan comptable. Vous retrouverez sans cesse ce terme. Il faut en être imprégné. Le plan comptable se divise en 10 classes. Nous n'en retenons que 8. Nous devons distinguer les comptes de bilan regroupés dans les classes 1 à 5 inclus et les comptes de gestion classes 6 et 7. Leçon 6 bis. Les comptes de bilan. Les comptes de l'actif correspondent à des valeurs actives. Ils ont nécessairement des soldes débiteurs. Les comptes du passif correspondent à des valeurs passives. Ils présentent donc des soldes créditeurs. Septième leçon, les comptes de gestion ou d'exploitation. Ils enregistrent charges et produits. Prenons l'exemple d'un commerçant qui vend 470 un manteau qui lui a coûté 320. Le stock de marchandises diminue de 320, mais la caisse augmente de 470. L'actif est donc plus fort de 150. Le surplus dans la caisse ne s'accompagne pas d'une diminution égale d'un poste d'actif ni d'une augmentation de passif. Le commerçant a réalisé un bénéfice. Examinons la deuxième hypothèse. Le commerçant reçoit une ristourne de 200. Sa dette vis-à-vis du fournisseur diminue. Le passif diminue, donc aucun compte d'actif n'a diminué, aucun compte de passif n'a augmenté en contrepartie. Cette réduction de passif correspond donc à un bénéfice. Leçon 7 bis. Le résultat d'exploitation. C'est la différence entre produits et charges. C'est un compte de la classe 8, exploitation générale. C'est un compte de résultat, donc de produits. Il est augmenté au crédit par les différents produits. Il est diminué au débit par les charges. Son solde représente le résultat d'exploitation, encore appelé résultat brut. Si le solde est débiteur, cela veut dire que les produits sont supérieurs aux charges. Nous avons un bénéfice. Dans le cas contraire, où les charges sont supérieures aux produits, nous avons une perte. Le solde est débiteur. Huitième leçon. Application de la partie double. Résultat égal actif moins passif. Résultat égal produit moins charge. Donc, actif plus charge égale passif plus produit. Une opération comptable intéresse toujours deux comptes. Ces deux comptes peuvent être des comptes de bilan du même type, c'est-à-dire deux comptes d'actifs ou deux comptes de passifs, ou bien un compte de gestion et un compte de bilan. Si un compte de charge augmente par exemple achat, un compte d'actifs diminue, caisse. Ces deux comptes peuvent être un compte de produit qui a augmenté et un compte d'actifs qui augmente, par exemple caisse et vente. Lorsque nous enregistrons une opération, si un compte de gestion varie, le compte qui intervient en contrepartie est un compte de bilan. L'un sera débité, l'autre crédité. L'avantage de la partie double est de pouvoir effectuer un contrôle arithmétique. Le contrôle est fait par l'établissement d'un document appelé balance. C'est un tableau qui fait apparaître, pour tous les comptes utilisés dans l'entreprise, le total du débit et le total du crédit, ainsi que le solde. Neuvième leçon, le virement comptable. C'est le transfert d'une somme suivant des règles strictes. Prenons un exemple. Nous avons vendu des marchandises à Dupont pour 900. Nous avons crédité le compte vente de 900, ce qui est juste. Mais par erreur, 900 ont été portés au débit du compte de Durand. Pour rectifier, nous devons inscrire 900 au débit de Durand. Or, nous avons appris qu'à tout compte débité correspond un compte crédité. Vente ayant déjà été créditée, nous ne pouvons le faire intervenir. Il faut donc créditer le compte de Dupont. La somme de 900 est passée du débit de Dupont au débit de Durand. Nous avons fait un virement. Si nous tirons le solde de Dupont, celui-ci est nul, ce qui est normal, puisqu'aucune opération n'a été faite avec lui. Il est évident que nous pouvons annuler l'opération erronée pour passer l'écriture correcte. Ce procédé, alourdissant les totaux des comptes, est peu utilisé. Dixième leçon. Réciprocité des comptes. On dit que deux comptes sont réciproques lorsque le crédit de l'un est égal au débit de l'autre. Onzième leçon. Leçon de révision. Revoyez toutes les leçons et ne poursuivez que si vous avez tout bien compris. Douzième leçon, la permanence de l'inventaire. Ce procédé est caractérisé par l'ouverture d'un seul compte d'actifs et par l'enregistrement dans un compte résultat de la différence entre prix de vente et d'achat. Treizième leçon. Les valeurs immobilisées. comprennent tous les biens immobilisés réellement ou par destination. Nous enregistrons toutes ces valeurs dans la classe 2 du plan comptable. Attention, ne confondez pas le compte 27 dépôt et cautionnement qui enregistre le montant des sommes versées en garantie à l'EDF, au propriétaire, au Gaz de France, et le compte 63, travaux, fournitures et services extérieurs, qui enregistre le montant des quittances. 14e leçon, les valeurs d'exploitation sont constituées par l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures, des déchets, des produits finis, des emballages commerciaux qui sont la propriété de l'entreprise. Notons que le compte achat enregistre les achats au comptant et les achats à crédit. De même, le compte vente enregistre les ventes au comptant et à crédit. 15e leçon. Les comptes de tiers. Les principaux tiers sont les fournisseurs, les clients, le personnel et l'État. Ce sont les comptes de la classe 4. Ils enregistrent toutes les opérations concernant les relations avec les tiers. Nous connaissons déjà le compte 40 fournisseurs, qui est le compte principal. Nous pouvons ouvrir un compte au nom de chaque fournisseur. Dans ce cas, on a ce que l'on appelle un sous-compte ou compte individuel. Le compte fournisseur est un compte de passif. Il est crédité lors des achats et débité des règlements, retours de marchandises et des diverses réductions. Il présente un solde créditeur. Nous pouvons rencontrer un compte fournisseur dont le solde est débiteur dans le cas où nous versons des avances sur commande. Un autre compte de la classe 4 que vous avez déjà utilisé est le compte client 41. Il y a aussi le compte 42 personnel et le compte 43, État. 16e leçon, les comptes de trésorerie ou financiers. Ce sont les comptes de caisse, banque et chèques postaux. Ces comptes font partie de la classe 5, comptes financiers. Leur solde toujours débiteur représente les sommes dont nous disposons. Ces comptes figurent toujours à l'actif du bilan. Le compte caisse à numéro 57, le compte banque 56, le compte CCP, c'est-à-dire compte courant postal, 565 fonctionne comme le compte banque, mais l'administration des PTT n'accorde jamais de découvert. Lorsque nous remettons un chèque à notre banque pour qu'elle l'encaisse à notre place, cela demande toujours un délai de quelques jours. On peut alors ouvrir un compte d'attente 54 chèque à encaisser. Par exemple, notre client nous règle 820 par chèque que nous remettons à notre banque. Le compte client diminue. Nous pouvons le créditer de 820. Notre compte banque n'a pas encore augmenté. Nous ne pouvons le débiter tout de suite. On va en contrepartie débiter chèque à encaisser. Lorsque la banque nous avise qu'elle a encaissé le chèque, nous pouvons débiter banque de 820 par le crédit de chèque à encaisser. Le compte d'attente est alors soldé. 17e leçon. Les écritures de règlement. Une vente ou un achat peuvent être diminuées par les rendus, les rabais et les remises. Les remises, rabais, ristournes qui figurent sur les avoirs sont enregistrées au début du compte 73. Réduction sur vente. Ceci chez le fournisseur. Chez le client, nous les enregistrons au crédit du compte 74, rabais, remises et ristournes obtenues. Ces réductions figurant sur les avoirs sont encore appelées réductions hors facture. Les escomptes de règlement sont toujours comptabilisés au crédit de produits financiers, numéro 77 chez le client. Pour le fournisseur, il s'agit d'une charge enregistrée au débit de 67, frais financiers. Dix-huitième leçon. Les effets de commerce. Ce sont les lettres de change ou traite et les billets à ordre. Lorsque nous avons tiré un effet sur notre client, nous devons l'enregistrer au débit du compte effet à recevoir. Le compte client est crédité en contrepartie. Chez notre client, il ne s'agit pas d'un effet à recevoir, mais d'un effet à payer. Le compte est crédité par le débit de fournisseur. Lorsque l'effet aura été payé, les comptes effet à recevoir chez l'un et effet à payer chez l'autre seront soldés. Au moment de l'échéance, nous avons le choix entre encaisser nous-mêmes les faits ou demander à notre banque de le faire pour nous. Dans le cas où nous nous présentons chez notre client pour le paiement, notre compte caisse augmente, il est débité et fait à recevoir et crédité. Si nous voulons que notre banque encaisse cet effet pour nous, nous allons la prévenir quelques jours avant l'échéance en lui remettant les faits accompagnés d'un bordereau de remise à l'encaissement. Les faits n'étant plus dans notre portefeuille, nous allons créditer effet à recevoir. La somme n'est pas encore disponible à notre compte. Nous ne pouvons débiter banque. On va utiliser un compte d'attente effet à l'encaissement. Lorsque la banque nous avise qu'elle a bien encaissé les faits, nous portons le montant au débit de banque, mais attention, notre banquier nous retient des frais appelés agios, qui sont enregistrés au débit de frais financiers. Le compte banque est débité pour le net, c'est-à-dire le nominal de l'effet, moins les agios. En contrepartie, nous devons créditer effet à l'encaissement. Lorsque l'opération est terminée, le compte d'attente est soldé. Dix-neuvième leçon. Le compte de l'exploitant. Toute dépense personnelle de l'exploitant, réglée par l'entreprise, doit être inscrite au débit de ce compte. 20e leçon. Tenue des livres. Inscription sur des livres imposés par la loi, tel le journal, tenu au jour le jour. Pour toute opération, nous devons avoir un compte débité, un compte crédité. En bas de page, le total du débit doit être égal au total du crédit. Ceci permet de vérifier l'exactitude des articles récapitulatifs. En conséquence, ne coupez jamais une écriture. Les comptes, comme nous les avons étudiés jusqu'à maintenant, constituent le grand livre. Il peut être tenu sur feuillet mobile, sur registre ou sur fiche. Celles-ci permettant une exploitation mécanographique sont très utilisées. Lorsqu'une écriture a été passée au journal, vous devez la reporter au grand livre. 21e leçon, le système des grands livres auxiliaires. Parfois, le grand livre est divisé en grands livres auxiliaires des clients, des fournisseurs et grands livres général. Les comptes individuels tenus dans les grands livres auxiliaires sont regroupés dans un document appelé relevé nominatif. Nous établissons un relevé nominatif des clients et un relevé nominatif des fournisseurs. Les totaux débits, crédits et les soldes de ces relevés doivent être égaux aux totaux et soldes des comptes collectifs. 22e leçon. Le système centralisateur. Il comprend une comptabilité auxiliaire et une comptabilité générale de centralisation. Pour effectuer les écritures de centralisation, nous devons passer une écriture par journal auxiliaire. Chaque compte étant débité ou crédité pour la totalité des opérations de la période. Comme dans le système classique, nous établissons les relevés nominatifs et la balance. La particularité du système centralisateur et l'emploi de comptes dits de virement interne. 23e leçon, les journaux auxiliaires de trésorerie. Ils possèdent une colonne intérieure, c'est-à-dire que la colonne du compte support comprend deux comptes à débiter ou à créditer. Prenons un exemple. Nous vendons pour 420 de marchandises contre espèces. Cette opération concerne le journal de trésorerie. Débit, du côté gauche, nous reportons 420 dans la colonne caisse qui correspond au débit de ce compte. Toujours dans la partie gauche du journal de trésorerie, nous ouvrons une colonne vente qui correspond au crédit de ce compte. Le principe est identique pour le crédit de ce journal de trésorerie. 24e leçon. Les journaux divisionnaires. Comment va-t-on les enregistrer? Si les avoirs sont nombreux, l'entreprise peut ouvrir un journal divisionnaire des avoirs clients et un journal divisionnaire des avoirs fournisseurs. Si l'importance de ces documents ne nécessite pas l'ouverture de journaux particuliers, les avoirs sont enregistrés au journal des opérations diverses. Ou bien nous les portons en rouge dans les journaux de vente et d'achat. Lorsque vous rencontrez une somme en rouge, cela veut donc dire que vous devez la soustraire du total. 25e leçon, le journal Grand Livre. Il groupe toutes les opérations de caisse, banque et chèques postaux. Ce journal Grand Livre peut être tenu en système classique, en système centralisateur. Dans ce cas, nous devons tenir des journaux auxiliaires. 26e leçon, la balance carrée. Elle est utilisée comme journal général, grand livre général, balance générale. Elle a donc une triple fonction. Prenons l'exemple d'un achat à crédit pour 2000. Au journal divisionnaire des achats, vous passez achat à fournisseur pour 2000. Dans la balance, l'enregistrement se fait de la manière suivante. Achat est débité du côté débit de la balance. Sur la ligne achat, on reporte 2000 dans la colonne achat puisque ce compte est débité au journal des achats. Le compte fournisseur est crédité donc côté crédit de la balance. Sur la ligne fournisseur, on reporte 2000, ceci dans la colonne achat puisque fournisseur est crédité dans le journal des achats. 27e leçon, la comptabilité par décalque. C'est une technique qui permet la suppression des reports, l'inscription de plusieurs comptes en même temps, l'établissement de la balance sans avoir à passer des écritures de centralisation. Huitième leçon, la comptabilité des salaires. Calcul de la rémunération allouée aux travailleurs liée à un employeur par contrat de travail. La comptabilité des salaires se prête facilement au système par décalque, paye verticale ou horizontale. Cette comptabilité est régie en totalité par la législation sociale. Neuvième leçon. Les frais de transport à la charge de l'entreprise peuvent être enregistrés au débit du compte principal. Les frais de transport à la charge de l'entreprise sont enregistrés au compte 64, transport et déplacement. Ce compte prend en considération les frais de transport et de voyage du personnel, mais aussi le transport des marchandises. Nous étudions plus particulièrement le transport des marchandises, différents cas pouvant se présenter à nous. Les marchandises voyagent soit en port payé, soit en port dû. En port payé, le transport est réglé au départ par le fournisseur. En port dû, il est payé par le client à la réception des marchandises. Trentième leçon, les opérations postales. Elles sont acquittées en timbre-poste, versements en espèces ou à l'aide d'une machine à affranchir. Elles sont enregistrées au compte 66, frais divers de gestion. Mais lors de l'installation du téléphone, le cautionnement s'enregistre au compte 27, dépôt et cautionnement. 31e leçon, comptabilité des emballages. On doit distinguer le matériel d'emballage et les emballages eux-mêmes. Examinons les différents comptes. Le matériel d'emballage tel que des cuves, fûts, sont enregistrés pour leur coût d'achat au compte 2165 matériel d'emballage. Le compte stock d'emballage numéro 37 sert au moment de l'inventaire. Le compte 607 achat d'emballage enregistre les emballages effectivement achetés. Les emballages que nous ne restituons pas aux fournisseurs. Le compte 725, vente d'emballage. Il enregistre les emballages que nous vendons et ceux que les clients ne nous restituent pas. Le compte emballage consigné ou récupérable par l'entreprise, numéro 464. Le compte 465, emballage à rendre. Un compte de produits chez le fournisseur, 767, Bonny sur reprise d'emballage. Un compte 6307, compte de charge chez le client, Mali sur reprise d'emballage. Quoi qu'il en soit, les comptes emballage consignés et emballage à rendre sont toujours tenus au prix de consignation. Deuxième leçon, le renouvellement des effets et les effets impayés. Les effets à recevoir, les effets à payer et les effets impayés qui, eux, doivent être traités judiciairement. À l'échéance, un effet peut nous revenir impayé sans que nous ayons été prévenus par le client. Le refus de payer est constaté par un acte d'huissier appelé protêt. Nous pouvons constater cet état de choses de deux façons. Débiter client par le crédit de banque pour le montant de l'effet plus les frais ou bien procéder en deux temps. Effet impayé débité pour le nominal, frais financiers par le crédit de banque, puis imputer cela au compte du client. Client débite pour la totalité, par le crédit d'effets impayés et de frais financiers. 33e et 34e leçon. Les travaux de fin d'exercice. Tout d'abord, les travaux extra-comptables. Ils consistent à vérifier l'inventaire des marchandises, l'inventaire des disponibilités, des créances et des dettes. Avant de commencer cette partie nouvelle de votre cours, il faut avoir compris ce qui précède. La vérification des marchandises est faite en comptant ce qui existe en stock, soit dans le magasin, soit chez les dépositaires. Les stocks sont dénombrés le plus souvent à partir d'un document appelé fiche de stock. Il existe une fiche pour chaque catégorie d'articles. Elle enregistre les entrées et les sorties au fur et à mesure où elles se produisent. L'évaluation est confiée en principe au service de comptabilité analytique. Elle est faite au prix de revient d'achat moyen ou au cours du jour si celui-ci est inférieur. L'inventaire des disponibilités. Le commerçant doit vérifier sa caisse. Le contenu du tiroir caisse doit être égal au solde débiteur du compte caisse. Dans le cas où il n'y aurait pas concordance, il faut passer des écritures permettant la correction. 35e et 36e leçon. Les travaux comptables comprennent les écritures de redressement et les rectifications d'actifs concernant principalement les différentes formes d'amortissement et de provision. Les amortissements. Si vous achetez une automobile et que vous vouliez la revendre par la suite, le prix de vente sera inférieur au prix d'achat. Avec le temps, votre véhicule a perdu de sa valeur. En comptabilité, cette dépréciation est constatée par les amortissements. L'amortissement est la constatation comptable de la perte subie sur la valeur d'actif des immobilisations qui se déprécient avec le temps. Les frais d'établissement engagés pour la constitution de l'entreprise figurent dans les valeurs immobilisées et sont amortissables en général en 5 ans. Ceci afin de faire supporter ces frais par plusieurs exercices, c'est-à-dire plusieurs années. Nous voyons qu'il existe plusieurs méthodes de calcul, mais les amortissements partent toujours de la date d'acquisition de l'immobilisation. Il est très difficile de calculer exactement la dépréciation subie par une immobilisation. Aussi, pour chiffrer la charge imputable à chaque exercice, on fixe pour chaque élément sa durée probable d'utilisation. Les provisions. la provision et la déduction destinées à faire face à une dépréciation d'un élément non amortissable de l'actif ou à une charge nettement précisée et que les événements en cours rendent probables. Nous serons donc amenés à distinguer les provisions pour dépréciation et les provisions pour charge. Parmi les provisions pour dépréciation, nous classons les provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables, provisions pour dépréciation des stocks, pour dépréciation des comptes de clients. Nous trouvons les provisions pour risques qui permettent de couvrir la perte d'un procès en cours, d'un sinistre insuffisamment couvert par les provisions et les indemnités de licenciement. Une provision pour impôt peut être créée en vue du paiement de ceux-ci à condition qu'il concerne l'exercice qui s'achève. Les provisions pour charges permettent de répartir des charges très importantes sur plusieurs exercices, par exemple des grosses réparations. 37e leçon. Régularisation des comptes d'amortissement et de provisions. Ils peuvent devenir caducs, mais il faut en tenir compte au point de vue comptable. En cours d'année, il arrive que l'on vende une immobilisation. Le prix de vente devrait être égal à la valeur résiduelle, c'est-à-dire à la valeur d'origine, moins les amortissements. Il en est rarement ainsi. Le prix de vente est soit supérieur, soit inférieur à la valeur résiduelle. La différence ainsi enregistrée est comptabilisée au compte 874, pertes et profits exceptionnels. La vente d'une immobilisation va nous conduire à effectuer un certain nombre de régularisations. Les comptes d'immobilisation et d'amortissement devront être soldés. Régularisation des comptes de provision. Comme les comptes d'amortissement, les provisions doivent être régularisées. On distingue trois cas. Le cas où la provision est devenue inutile, le cas où la provision doit être augmentée, le cas où la provision doit être diminuée. En 38e leçon, cas particulier des provisions sur stock et sur charge. Les comptes de stock sont assimilés à des comptes de charge ou de produits. Citons par exemple une entreprise qui envisage de refaire faire sa toiture. Pendant 5 ans, nous avons constitué une provision de 10 000 francs en vue de cette réparation. Elle a été effectuée et réglée au mois de mars, 40 000. Lors du règlement, nous avons passé au compte 63, travaux, fournitures et services extérieurs, 40 000. À banque, compte 562, 40 000. Nous voyons que par cette écriture, nous faisons supporter la charge par un seul exercice. Le bénéfice en sera diminué d'autant. Rappelons que la charge a déjà été enregistrée chaque année pour 10 000 et pendant 5 ans par l'intermédiaire du compte. Dotation aux provisions. Nous avons étudié que les comptes de charge diminuent le bénéfice, mais aussi que les comptes de produits augmentent le bénéfice. De façon à ne pas modifier le bénéfice, nous allons utiliser un compte de produit, charge couverte par une provision. Ce compte sera crédité de 40 000. Pour compenser le compte de charge TFSE, c'est-à-dire travaux, fournitures et services extérieurs, la provision de 50 000 n'a plus lieu d'exister. Il faut solder le compte. Provision pour pertes et charges et créditeurs de 50 000, nous devons donc le débiter de 50 000. D'autre part, Nous avions prévu une charge de 50 000. En réalité, nous ne supportons que 40 000. Nous avons réalisé un profit de 10 000 par rapport à nos prévisions. Ce profit est enregistré au compte pertes et profits sur exercice antérieur. D'où l'écriture « Provision pour pertes et charges 50 000 à charges couvertes par une provision 40 000 à pertes et profits sur exercice antérieur 10 000. » 39e leçon. Détermination du résultat d'exploitation. Toute régularisation effectuée, il permet de connaître la perte ou le bénéfice de l'entreprise. Les écritures aboutissant au résultat d'exploitation sont appelées écritures de reclassement. Le compte exploitation générale est soldé par un autre compte de résultat, résultat d'exploitation. Si le solde d'exploitation générale est débiteur, pour le solder, il faut le créditer par le débit de résultat d'exploitation, ce qui donne l'écriture résultat d'exploitation à exploitation générale. Si le solde d'exploitation générale est créditeur, pour le solder, il faut le débiter par le crédit de résultat d'exploitation. L'écriture est la suivante. Exploitation générale à résultat d'exploitation. Ce compte résultat d'exploitation nous donne le résultat brut de l'exercice.